Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Valérie Gasse.
Bonsoir, bienvenue dans Mardi politique. Nous recevons aujourd'hui Thierry Mandon, le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche. Bonsoir Thierry Mandon.
Bonsoir.
À mes côtés pour vous interroger, Roselyne Fèvre de France 24. Bonsoir Roselyne.
Bonsoir Valérie.
Et Lilian Alemania de Libération. Bonsoir Lilian.
Bonsoir.
Thierry Mandon, la terrible année 2015 est finie. Hein, elle a été marquée par les attentats de janvier et de novembre. Dans deux jours, le 7 janvier donc, nous commémorerons l'attaque contre Charlie Hebdo, juste quelques semaines après les autres attentats qui ont frappé Paris le 13 novembre. Alors que l'état d'urgence est encore appliqué, aujourd'hui François Hollande a commencé ses commémorations. Il a dévoilé trois plaques à l'ancienne adresse de Charlie Hebdo, boulevard Richard Lenoir où a été tué un policier et puis à l'hypercachère. Quel doit être le message du chef de l'État dans ce moment très particulier? Il doit s'exprimer pour la première fois jeudi devant les forces de sécurité.
Le message est forcément un message d'unité de la nation face à des menaces qui persistent, face à des dangers qui sont réels, face à des fonctionnaires de l'État, je pense aux policiers, aux gendarmes et aux armées, qui risquent chaque jour leur vie pour défendre les Français. Et donc c'est des messages assez graves, assez solennels, et c'est ça que le président doit incarner par-dessus tout le rassemblement des Français, dans une situation qu'on n'a pas connue depuis des décennies.
Qu'est-ce qui a changé, j'allais dire, entre janvier et novembre, entre les premiers attentats et ceux du mois de novembre, à la fois dans la classe politique et puis dans la société française? Pour vous, quelle est l'évolution?
D'abord, c'est une évolution de nature. Les attentats et ceux qui en veulent à la République française peuvent frapper n'importe où, n'importe qui, n'importe quand. Ce qui a changé, c'est l'organisation structurée de ces réseaux. Ce n'est pas deux frères vaguement reliés par Internet à un Syrien ou un combattant en Syrie, mais c'est des réseaux internationaux structurés avec qui franchissent les frontières. Donc c'est un danger qui doit être traité autrement, avec des moyens nouveaux, juridiques, policiers, puis aussi avec un appel à la nation, à la vigilance de la nation et à la prise de conscience par les citoyens de cette situation radicalement nouvelle.
Alors, vous dites les choses ont changé, il faut des moyens nouveaux. Après les attentats de novembre, François Hollande a proclamé l'état d'urgence. On est encore dans l'état d'urgence et il a proposé une révision de la Constitution pour justement y inclure l'état d'urgence. Et puis aussi une mesure qui fait polémique, la déchéance de nationalité au départ pour les terroristes binationaux, y compris ceux nés en France. C'est une proposition qui est soutenue largement par les Français, selon les enquêtes, mais qui provoque de vives critiques à gauche, même chez les proches du chef de l'État. Est-ce qu'il n'a pas fait un calcul un petit peu dangereux en tendant la main comme ça à la droite et en incluant cette mesure, François Hollande?
Écoutez, moi, je n'ai pas du tout la lecture que vous faites de cette mesure. Je pense que cette mesure renvoie à une conception de ce qu'est le comportement d'un citoyen français. Et donc une certaine idée de la nation. La nation, quand on est français, on adhère à un pacte de valeurs, on adhère à un certain nombre de codes de comportement, de principes républicains. Et quand violemment on s'attaque et aux citoyens français et aux principes qui font la République, on n'est pas français. C'est ça qu'a voulu incarner, dire le président quand il a fait la proposition de la déchéance de nationalité pour les binationaux. C'était derrière cette proposition une certaine idée de la nation et de ce que l'appartenance à la nation française signifiait comme accord sur un certain nombre de principes. Si on fait un peu d'histoire politique, c'est une vision de la nation qui est de caractère rousseauiste, au sens où, quand on est français, on adhère à un contrat social de valeur. Et quand on s'attaque à ces valeurs pour les détruire, on ne peut pas se revendiquer de la conception historique de la citoyenneté française.
Lilian Alemania.
Thierry Mandon, vous faites référence à l'histoire, mais dans l'histoire, justement, les socialistes français ont toujours combattu une extension de la déchéance de nationalité quand elle était proposée par l'extrême droite, puis par la droite. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, votre camp puisse soutenir une telle mesure ?
Alors, deux choses. D'abord, les conditions dans lesquelles la déchéance de nationalité pourrait être prononcée sont radicalement nouvelles des situations auxquelles vous faites référence, puisqu'il s'agit d'actes de terrorisme, toutes choses qui n'avaient pas été envisagées jusqu'alors. Quand la proposition avait été faite, je crois, par Nicolas Sarkozy, elle visait quelqu'un qui avait assassiné un fonctionnaire de police, ce qui est un crime qui doit être très durement condamné, mais qui ne revêt pas comme acte violent de destruction de la République, des valeurs qu'elle incarne et donc de l'idée qu'on peut se faire de l'appartenance à la communauté française, la même force que l'acte terroriste. Donc ce n'était pas du tout le même contexte. Premièrement. Et deuxièmement, mon sentiment, c'est que le président de la République a raison, cherche à susciter un débat et à réveiller le sentiment d'appartenance des Français à une communauté de valeurs qui induit un certain nombre de comportements républicains. Et c'est contre ça que cette mesure de la déchéance de nationalité vise à exclure ceux qui n'auraient pas ces comportements.
Là, il a surtout réveillé la gauche. Hein. Rosine Fèvre.
Est-ce que ça comporte un risque politique pour lui ? Alors, c'est vrai qu'il joue l'opinion, François Hollande, puisqu'il a 85% des Français derrière lui sur cette mesure donc, où il tient bon. Quel est le risque politique pour François Hollande aujourd'hui ? Alors,
d'abord, je ne dirais pas qu'il joue l'opinion. La mesure qu'il a prise, il ne savait pas quand il l'a expliqué, quand il en a parlé la première fois devant le Congrès. Au passage, je précise que devant le Congrès, il n'avait même pas parlé de l'inscription de cette mesure dans la Constitution.
Il était resté flou, mais il a tranché finalement.
C'était ça. Oui, non, mais pour que les choses soient bien recadrées, bien précisément, c'était pas flou du tout, c'était extrêmement clair. Il a dit, premièrement, je réviserai la Constitution pour l'état d'urgence, et ce texte sera accompagné d'autres textes, notamment sur la déchéance de nationalité. Donc, ses engagements étaient très, très précis. Il joue pas l'opinion. Encore une fois, je pense qu'il veut réunir les Français autour d'un sentiment d'appartenance partagé à un certain nombre de valeurs qui font la nation et qui font le patriotisme. Est-ce que ça peut lui rapporter, est-ce que ça peut l'unir ? Je ne sais pas son calcul. Je lis des choses sur une stratégie qui serait diabolique contre la droite, tout ça, c'est pas ça qu'il fait. Oui, je pense que le président de la République est fondamentalement inquiet de la situation qu'on a découvert en janvier 2015, qui a pris une tournure terrible, dramatique en fin d'année, et qu'il pense que face à ces menaces-là, la nation doit être soudée et rassemblée.
C'était une manière aussi de faire venir la droite sur cette révision de la Constitution. Il faut les 3/5 pour la voter, on a besoin des voix de la droite.
Oui, comment il fait concrètement ?
Mais le président, d'abord, je pense qu'on ne peut pas lui faire ce procès. Le président, il veut rassembler les Français. Le président, il a une majorité. Il n'imagine pas qu'on rassemble les Français contre sa majorité. Donc, il fait des propositions. Il entend le débat qui manifestement prend une tournure assez vive. Il écoute les arguments. Il ouvre même des portes, puisque finalement, cette déchéance de nationalité qui devait concerner les binationaux, ceux qui ont deux nationalités, peut-être pourrait être envisagée sous des formes juridiques à préciser pour l'ensemble des citoyens français.
Comment ça va se terminer, cette affaire, alors ?
Ça va se terminer par un vote du Congrès, au 3/5, sur une mesure qui dépassera peut-être
le champ initial. Il a quand même été obligé d'évoluer, vous le dites vous-même, vous l'amorcez, on allait en parler. On est passé de la déchéance pour les binationaux nés en France, et maintenant c'est la déchéance pour tous. Pour revenir sur cette problématique de l'égalité de catégories françaises, il y a quand même eu une espèce de pédalage dans la semoule, là. Pour le moins.
Sachant que devant le Congrès, le président de la République a dit qu'on ne devait pas créer d'apatrides. Donc, il y a des chances pour tous.
Si on déchoit un Français qui n'a pas d'autre nationalité.
Écoutez, là, je crains qu'on rentre dans des débats juridiques extrêmement précis qui font référence à des traités que la France a signés, des traités qui ont existé mais qui n'ont pas été ratifiés, des incertitudes juridiques qui demeurent. Ce qui est vrai, c'est qu'il faut replacer cette décision dans son contexte. Le contexte, c'est que le président de la République considère qu'être français, ça interdit un certain nombre de comportements contre la pérennité de la République, contre la pérennité de la nation, et ça implique un certain nombre de comportements de type patriotique. Et que quand on n'a pas ces comportements-là, on ne peut pas revendiquer le droit d'être français. C'est évidemment pas à lui de le décider, c'est à des procédures judiciaires, à des condamnations, mais il doit être possible que quelqu'un qui a des comportements attentatoires à la pérennité de long terme de la nation française puisse être déchu de la nationalité.
Mais tout de même,
qu'il soit français ou qu'ils aient une double nationalité.
Est-ce que vous ne trouvez pas que ce débat est, dans le fond, assez dérisoire? Parce que si un terroriste, bien sûr, est prêt à mourir, il s'en tamponne de savoir s'il va être déchu de sa nationalité. On sait bien que ce n'est pas un outil de sécurité, la déchéance de la nationalité.
Non, donc, vous avez raison. Vous avez complètement raison.
D'ailleurs, je crois que
le Premier ministre lui-même a pris soin de préciser, à raison, que c'était une mesure symbolique. Et le symbole, c'est quoi? C'est le symbole de ce qu'est être français et ce que quelqu'un qui se comporte de manière attentatoire à la nation ne peut pas revendiquer le droit d'être français, quoi qu'il en soit. C'est un débat sur l'appartenance nationale. Quel est le sens de l'appartenance nationale? Quelle est la force de cette appartenance? Et à partir de quand on se met, de fait, en dehors de la nation? Le terroriste, celui qui, de manière criminelle, fait un attentat contre les principes républicains, les principes nationaux, celui-là ne peut pas revendiquer le droit d'être français.
Il y a une question de méthode. Est-ce qu'on était obligé d'inscrire cette mesure dans la Constitution? Rachida Dati, maire du 7e arrondissement, Les Républicains, affirme qu'on aurait pu appliquer la déchéance de nationalité sans en avoir à réviser la Constitution. Je vous propose d'écouter ce qu'elle disait hier sur France Info.
Si on voulait étendre à ceux qui sont nés français, on pourrait le faire par la loi. Pourquoi l'inscrire? Pourquoi inscrire un principe que je considère discriminant dans la Constitution? En plus, je pense que François Hollande a été mal conseillé. Je pense par Manuel Valls, qui n'y connaît rien au droit, et mal conseillé ou non conseillé par sa garde des Sceaux. Moi, je considère que c'est aussi une fonction du garde des Sceaux d'expertiser les mesures et de faire des propositions en conséquence. On se retrouve avec une mesure qui n'aura aucune efficacité dans la Constitution.
Alors, est-ce que François Hollande a été mal conseillé par sa garde des Sceaux, qui, on l'a bien compris, est opposée à cette mesure sur la déchéance de nationalité, qui avait même dit qu'elle ne serait pas dans le texte la veille du jour où on a appris qu'elle était finalement dans le texte? Est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème là?
Le président de la République a consulté le meilleur expert du droit qui soit, à savoir le Conseil d'État. Et cet avis du Conseil d'État qu'il faut relire, équilibré, mais il précise que c'est au président de décider si l'inscription dans la Constitution de cette déchéance de nationalité doit être faite. En tout cas, c'est sûrement la solution qui la sécuriserait. C'est donc pas n'importe quel conseiller. Madame Dati est une personnalité extrêmement brillante.
C'est quand même un souci.
Elle connaît
de faire
le Conseil d'État et
une réforme qui
suivre
va être portée
ce que
par une garde des
Sceaux
qui est opposée à la mesure quand même.
Écoutez, la garde des Sceaux, elle a dit une chose très simple, qui est très importante. Le pays est en crise, le président de la République doit mener un combat intérieur contre des terroristes qui continuent à menacer la France, et à l'extérieur, chef des armées en guerre, et on n'affaiblit pas le président de la République dans cette situation-là. Elle a dit très précisément...
Il n'y avait pas pensé la veille.
La veille, elle a dit autre chose. Elle ne connaissait pas l'arbitrage du président de la République. Quand elle a connu l'arbitrage définitif du président de la République, elle a politiquement, et c'est une position qui se conçoit, dit que rien ne devait affaiblir le président de la République et donc elle s'est rangée à son arbitrage.
Lilian Alemania.
Donc on va avoir une Christiane Taubira qui, au début du quinquennat, a défendu le mariage pour tous, acclamé par la gauche, et qui demain pourrait défendre la déchéance pour tous.
Et alors? Et si la gauche la vote? Moi, j'ai lu avec intérêt les derniers débats du Parti Socialiste qui suggère cette piste comme voie de sortie.
Il y en a d'autres.
C'est un mauvais compromis, on va dire quand même.
C'est
une déchéance pour
ça.
C'est permettre à la droite de voter et donner un alibi à la gauche.
Il y a aussi des gens dans votre camp qui sont pour une déchéance de citoyenneté.
En démocratie, pour faire voter des textes, il faut des majorités. Et le président de la République cherche à rassembler autour de sa proposition. On peut quand même pas lui faire le reproche de faire les compromis, y compris même par rapport à la démarche initiale qui était la sienne, qui lui permettent de rassembler le plus largement possible les Français. C'est ce qu'il cherche à faire.
Si vous permettez, je vais sortir un peu de la déchéance de nationalité pour aller à quelque chose de peut-être plus concret. Quelles leçons, dans le fond, a tiré le pouvoir politique, le pouvoir judiciaire, le pouvoir policier de ces deux attentats en une année? On a vu quand même qu'il y avait eu certains dysfonctionnements entre les services de police. On a vu que François Hollande s'était rendu deux fois sur les lieux des attentats alors qu'il y aurait pu y avoir des surattentats. Donc un pays qui n'était quand même pas armé, on va dire, psychologiquement.
Il y a des failles.
Il y a des failles. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des leçons qui ont été tirées de cette année terrible?
Bruno Le Maire demande, sur le même sujet, une commission d'enquête parlementaire. Est-ce qu'il a raison?
Je ne sais pas si ça relève d'une commission d'enquête parlementaire. Ce qui est vrai, c'est qu'il faut avoir la lucidité d'analyser l'état actuel de notre organisation des services de police, de notre droit, de nos infrastructures de protection des Français, d'identifier les failles et d'y remédier. Il y a déjà deux enseignements très importants qui ont été tirés. Premièrement, en matière d'effectifs de police et d'effectifs de renseignement qui ont été renforcés après cet attentat, prenant en compte le fait que nous n'avions probablement pas assez de capacité en matière de ressources humaines pour traiter les informations dont nous disposions. Deuxième chose qui a été tirée comme enseignement, c'est l'état du droit. L'état du droit est insuffisant. Le fait que nous ayons la procédure, la déclaration d'urgence nous permet de pallier pendant 3 mois à un droit qui doit être amélioré. De ce point de vue-là, un texte est en préparation pour renforcer les moyens de police et de justice pour intervenir plus facilement quand il y a des présomptions fortes d'attentats. Il y a un troisième domaine sur lequel, de mon point de vue, je crois d'ailleurs que d'autres membres du gouvernement, à commencer par ceux qui sont compétents dans ces domaines, je pense à Ségolène Royal, par exemple, ont attiré l'attention et ils ont raison, c'est que nous avons des infrastructures insuffisantes pour protéger les Français. Et il y a quelques jours, pour raison liée à mon ministère, j'étais en Chine. En Chine, dans le métro de Shanghai, c'est une ville de 25 millions d'habitants, Shanghai. Dans le métro de Shanghai, il y a des portiques de sécurité dans toutes les stations de métro. En France, les opérateurs de transport nous explique que c'est pas possible de mettre des portiques de sécurité. Il a fallu que Ségolène Royal fasse des pieds et des mains pour obtenir qu'on mette des portiques de sécurité dans le Thalys. Je pense que sur ce troisième point-là, les efforts sont insuffisants et qu'il y a encore des progrès.
Alors, est-ce que c'est dans la même logique que le projet de loi là, qui est préparé actuellement par Manuel Valls? On a appris ça dans Le Monde ce soir. Un projet de loi sur la lutte contre la criminalité organisée, qui était en fait le projet de loi sur la procédure pénale réaménagée, eh bien, va en fait réduire la nécessité de l'état d'urgence en renforçant les outils mis à la disposition de la police pour faciliter les perquisitions, les fouilles, les contrôles administratifs, les assignations à résidence. Est-ce que là, on va pas rendre la... Et tout ça en faisant un petit peu abstraction des procédures judiciaires habituelles. Est-ce que ça va pas trop loin? Est-ce que la lutte contre le terrorisme, là, on dérape pas?
Écoutez-moi, pour être sérieux, j'ai du mal à commenter un projet.
Mais vous dites qu'il faut renforcer les outils.
Oui, bien sûr. Non, mais il y a des insuffisances du droit hors état d'urgence. C'est évident. Je pense qu'en effet, en matière de perquisition, je ne vois pas pourquoi, quand on a des présomptions fortes de terrorisme, peut-être sous le regard d'un juge, mais je ne vois pas pourquoi on perquisitionnerait pas la nuit. Vous avez vu ce qui s'est passé en Belgique, où ils ont attendu le matin pour pouvoir perquisitionner. Pas de poule, le gars était parti pendant la nuit. Donc, le droit doit être renforcé.
Avoir plus de moyens d'agir.
Peux pas commenter un projet de loi qui est actuellement en examen au Conseil d'État pour voir si les stipulations envisagées par les ministres concernés, justice et intérieur, sont légales et qui ensuite reviendra en Conseil des ministres dans à peu près un mois. Ce qui est sûr, c'est qu'en matière de droit, nous devons tirer des enseignements. Ça a commencé à être fait et ça doit être consolidé pour renforcer les moyens d'investigation de la police. Sous contrôle du juge, évidemment, et le contrôle des libertés publiques.
Enfin, là, visiblement, on peut intervenir sans en référer au procureur, faire des fouilles.
Si j'ai bien compris, c'est pas sans en référer au procureur, c'est sans interférer au juge. Ce qui est pas tout à fait pareil. C'est donc bien sous contrôle judiciaire, puisqu'un procureur de la République est quand même, c'est pas un salarié qui est aux ordres du ministre de la Justice ou du ministre de l'Intérieur. C'est une personnalité, c'est un magistrat, un grand magistrat. Donc il y a un contrôle judiciaire. Le Conseil d'État doit examiner pour voir si c'est ou pas satisfaisant, si ça doit être renforcé.
Est-ce qu'avec des mesures de cet ordre, on va pas encore avoir une bronca à gauche, une nouvelle?
Attendons de connaître le... Comment voulez-vous que je commente un projet de loi que j'ai même pas, dont j'ai découvert l'existence dans
ça
le monde
et une pièce
qui,
dans doit,
qui est inscrit
quand même.
Au Conseil des ministres pour un débat entre les membres du gouvernement dans un mois d'ici. Donc, mais disons les choses juste pour conclure sur ce point-là.
Très vite,
clairement,
parce qu'on arrive à la fin.
C'est vrai que plus de sécurité, ça peut être des libertés
moyens supplémentaires et des libertés en moins.
Des libertés publiques.
C'est la fin de la première partie de Mardi Politique. Nous retrouvons Thierry Mandon dans quelques minutes.